17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Grand témoin aujourd'hui, Marie-Béatrice Levaux, qui est vice-présidente de l'UCESIF. Elle va nous expliquer ce que veut dire cette abréviation. Et vous venez de publier Plaidoyer pour une francophonie citoyenne. Nous sommes aujourd'hui la journée internationale de la francophonie, donc qui est célébrée dans le monde entier en principe, et en France qui revêt un éclat particulier, et surtout qui aujourd'hui se place à Dubaï dans le cadre de l'exposition universelle, on va parler dans un instant, et vous publiez ce plaidoyer. Mais j'aimerais faire un retour quand même sur ce qui se passe depuis quelques semaines, quelques jours. Vous revenez sur cette guerre en Ukraine et que vous nous donniez un petit peu à la fois votre réaction, votre analyse et éventuellement vos espoirs, vos propositions. Comment vous réagissez dans ce conflit ?
Bien, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci de m'inviter. C'est vrai que c'est une journée particulière, alors on en parlera sûrement. Peut-être moins visible en France que dans d'autres pays francophones, cette journée internationale de la francophonie. Elle revêt évidemment cette année peut-être un caractère, comme vous venez de le dire, plus particulier, plus sensible, même si l'Ukraine, puisqu'il faut en parler, n'est pas officiellement un pays francophone. On se rend compte au fur et à mesure de l'écoute des Ukrainiens, des jeunes aussi ukrainiens, que la langue française n'est pas absente du territoire ukrainien.
Quand on regarde toutes les interviews, un peu comment c'est dans les différents médias, on est surpris par la francophonie des Ukrainiens et des Ukrainiennes.
Je pense déjà que le continent russe, au sens large du terme, et on le sait, la langue française est une langue qui est apprise. C'est pas un pays francophone, évidemment, au sens où on le définit au sens de la francophonie, mais c'est un pays où de nombreux habitants, de nombreux Russes parlent le français. C'est une histoire, la langue française en Russie, et donc c'est aussi une histoire, la langue française en Ukraine. En tout cas, il y a une facilité d'apprentissage, un accent, enfin, on repère tout de suite.
Et on oublie très souvent, parce que les jeunes générations peut-être le savent pas, mais que il y a une longue tradition d'amitié, oui, entre le peuple russe, entre la Russie et la France.
Absolument, et des échanges.
Je n'ai pas du tout galvaudé, c'est concret, c'est
les échanges entre les villes,
dans le marbre,
absolument. On le voit sur les échanges entre les villes, on le voit sur toutes les manifestations folkloriques, par exemple, dans le cadre des échanges qu'il peut y avoir d'amitié. Beaucoup de troupes folkloriques font des échanges, viennent en France. Et d'ailleurs, c'est très souvent à cette occasion que les jeunes qui participent à ces manifestations culturelles soit apprennent le français, soit ont envie de l'apprendre. Et donc, je dirais, quand on dit que la langue française est vraiment fait le tour du monde, c'est peut-être une des seules langues, on l'oublie également, capable de faire le tour du monde.
Donc dans l'Ukraine, j'imagine que pour vous, a vocation à être dans l'Europe, à être indépendante, souveraine, j'imagine que c'est aussi votre position.
L'Ukraine est en train d'écrire son histoire. J'espère qu'elle va l'écrire, je dirais, avec les valeurs que nous portons aujourd'hui au niveau européen, au niveau de l'espace international francophone. Depuis Bamako en 2000, démocratie et francophonie, il y a quand même des profondeurs, je dirais, dans les valeurs que nous portons, valeurs de paix, valeurs d'humanisme, valeurs de démocratie. Alors ça pouvait être des mots galvaudés. J'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, ils prennent tout leur sens.
Alors, j'imagine que quand Charles Michel s'est adressé au Parlement européen en français, ça a dû vous faire plaisir, vous qui vous érigez contre un peu l'hégémonie de l'anglais.
Oui, en fait, c'est pas l'hégémonie de l'anglais, c'est d'abord l'hégémonie du globish, ce qui est encore un peu différent, hein, ce que j'appelle un anglais maltraité, hein, puisque bon, on peut le dire comme ça. La question de la présidence française de l'Union européenne, qui est aussi au cœur actuel, je veux dire, on a une conjonction d'événements très important, très politique, mais qui concerne aussi la vie quotidienne des citoyens en France et en Europe. Je pense que cette conjonction de la présidence de l'Union européenne qui porte à l'intérieur de ses objectifs pour ces 6 mois la question du plurilinguisme et du multilinguisme en Europe, c'est une question fondamentale. Et c'est pas juste la question de la langue française en Europe, c'est comment les Européens des 27 pays États membres dialogue entre eux. Et comme disait, je dirais, quelqu'un d'important, la première langue européenne, c'est la traduction. Et on l'a complètement oublié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que pour s'en sortir à 27, ce qui est quand même une complexité, eh bien, on pourrait utiliser le globish parce que c'est le seul moyen de se parler et de se comprendre. C'est une fausse réponse à un vrai problème. Et la question de la traduction, le fait que les grands textes européens puissent, je dirais, être directement sortis dans la langue des pays et pas dans une espèce de globish général administratif qui ensuite est traduit potentiellement dans les pays, on voit qu'on a une déperdition de sens absolument phénoménale. C'est ça le vrai sujet. Et donc le multilinguisme en Europe, c'est pas qu'un sujet soporifique, c'est fondamental pour l'Europe de demain.
Alors, vous venez de publier. Donc vous avez beaucoup d'attributions, on ne va pas rentrer dedans, parce qu'il faudrait au moins 2-3 pages d'attributions. En tout cas, vous défendez la francophonie et vous venez de publier « Plaidoyer pour une francophonie citoyenne » aux éditions Point d'Orgue, dans la collection « Cause ». Déjà, est-ce que c'est une cause qu'il faut défendre ? Est-ce que, là, vous venez parler de l'anglais, est-ce que vous êtes la nouvelle Jeanne d'Arc face aux Anglais? Est-ce que vous partez en croisade, Marie-Béatrice Levaux?
Je ne sais pas si c'est une cause. En tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est que ça ne soit pas une cause perdue. Je pense qu'on est très nombreux dans ce qu'on appelle la société civile. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui qui sont engagés, même s'ils ne mettent pas le mot francophonie dans leur engagement, parce que c'est un mot qui n'est pas utilisé en France. Et donc, il n'y a pas, je dirais, rencontré son public. Finalement, c'est ça le sujet. Donc ma première cause, c'est que la francophonie rencontre la France, c'est-à-dire qu'elle rencontre son public en France.
Mais elle ne l'a pas rencontré encore.
Non, évidemment que non, puisque depuis sa création, il y a peu de temps, dans le livre, je fais un parallèle entre la création de ce qu'on appelle l'espace francophone international et l'Europe. C'est 50 ans, tous les deux. Et donc c'est assez symptomatique de voir que et l'Union européenne et la francophonie sont nés à peu près en même temps, après une période de guerre justement, à la sortie de tout un ensemble de conflits, et que la francophonie n'a pas été créée par la France. Elle a été créée par des pères fondateurs qui venaient d'Algérie, qui venaient de tout un ensemble de pays, du Sénégal avec Senghor, etc., etc. Et donc cette idée que la francophonie, c'est pas la France. C'est d'abord d'autres pays francophones qui ont envie que la France soit un peu aussi, je dirais, leur boussole, d'une certaine manière. Et la France n'est pas totalement au rendez-vous. Elle l'est sur le plan diplomatique, sur le plan, je dirais, d'un certain nombre de relations international, multilatéral, puisque c'est quand même notre nos fondamentaux, mais elle n'a pas rencontré les citoyens. Je veux dire, le citoyen français.
Il y a une francophonie, pour faire court, élitiste, c'est-à-dire des organisations, etc., etc. Et puis il y a une francophonie du citoyen, et en fait, ces deux francophonies ne se rencontrent pas.
Je pense que la francophonie populaire, ce que j'appelle la francophonie populaire, elle n'est pas loin d'avoir envie. Simplement, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de médias qui s'en saisissent. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour ça. Il y en a très peu des médias qui font une émission sur ce sujet. On est dans la période où normalement ces choses-là devraient être dites. Je dirais que les médias sont très frileux globalement. Et donc, on le sait aujourd'hui, en France comme dans d'autres pays, les médias se saisissent d'un sujet parce qu'ils captent un intérêt et finalement les citoyens doivent parler parfois un peu fort pour que ce sujet soit capté. Et donc la relation entre les politiques publiques et les citoyens passe aussi par la médiation médiatique.
Mais cette francophonie populaire, comme vous l'appelez, elle existe, elle est dans la chanson, dans les arts, dans la littérature, dans le cinéma, etc. Pourquoi vouloir l'encadrer, l'institutionnaliser ? En fait, elle vit toute seule, cette francophonie. Elle est là. Et vous pensez qu'il faut plus l'institutionnaliser, qu'il faut plus l'orienter ? Elle est là, cette francophonie.
Je pense que la francophonie institutionnelle existe parce que, au plan de la culture, au plan de la diplomatie, au Quai d'Orsay, comme on dit, elle est beaucoup plus fragile. Parce que la question du mot francophonie, personne ne se questionne sur la définition de ce que ça veut dire. Parce que, est-ce que la France est un pays francophone ? Évidemment, déjà poser cette question, ça peut paraître quand même un petit peu, je dirais, ubuesque. La France fait partie d'un espace international francophone. C'est cette question de la langue en partage par des centaines de millions de personnes qui habitent dans des pays très différents aujourd'hui, elle n'est pas identifiée par les Français puisqu'elle n'est pas dans les livres, je dirais, à l'école. Elle n'est ni dans les livres d'histoire, ni dans les livres de géographie. On ne parle de la création de l'espace international francophone qui nous permet d'avoir un autre regard que simplement « je suis français, je parle en français et c'est ma langue, je dirais, ma langue utile ». Mais est-ce que les Français se rendent compte qu'ils ont une pépite dans les mains parce que leur langue, elle est aussi la langue d'autres ?
Et vous dites d'ailleurs pour ces autres qu'il y aura à peu près, à l'horizon 2030 ou 2050, 700 millions de locuteurs français.
En langue française.
En langue française. Donc finalement, notamment au niveau de l'Afrique. Donc ça va, les menaces sur la francophonie s'éloignent, non ? Le franglais s'éloigne.
Là, je pense qu'il faut qu'on s'arrête trois secondes sur cette espèce de mirage de 700 millions de locuteurs en langue française dans le monde d'ici 2030 ou plus. Pourquoi ? On est aujourd'hui 300 millions. Effectivement, le continent africain est celui qui porte le plus de locuteurs en langue française, tout simplement parce que nous sommes sur un point démographique. La question qui se pose, c'est comment les futures générations vont apprendre la langue française et est-ce qu'ils vont continuer à l'apprendre ? Est-ce que les familles francophones sur le continent africain vont avoir encore, je dirais, la possibilité d'apprendre le français dans les écoles ou en famille ? Et que la langue, c'est une question de génération. Elle se transmet. Si elle ne se transmet plus dans la cellule familiale, si elle ne se transmet plus au niveau scolaire, tout simplement parce que nous n'avons plus assez de professeurs en langue française dans le monde, c'est quand même 900 000 aujourd'hui, professeurs en langue française dans le monde. Mais c'est quelque part, ces 900 000 s'éteignent. Et la qualité de la langue également, je dirais, se réduit. Mais elle se réduit aussi en France, rassurons-nous, si je puis dire. Et donc, demain, la question de l'augmentation potentielle de la langue française comme étant une langue qui compte dans le monde, et c'est important d'avoir cet espace, cette communauté internationale en langue française pour, je dirais, construire un monde différent, qui ne soit pas uniquement mondialisation et qui ne soit pas uniquement anglo-saxon au niveau de sa manière de penser. Parce que la langue envoie la pensée, on est d'accord. Et donc, si je pense dans une langue, ça envoie un certain nombre de signaux. Donc, aujourd'hui, pour répondre à la question, atteindre 700 millions de locuteurs en langue française uniquement par le biais de la démographie, c'est-à-dire plus il y a de jeunes Africains et plus il y a de locuteurs en langue française, c'est uniquement une position statistique. Si nous n'avons pas une stratégie politique partagée par les 88 États membres et gouvernements, par exemple, de l'Organisation internationale de la francophonie, et si chaque État n'a pas à rendre compte quelque part qu'il est dans son propre territoire en action par rapport à la langue française et pas juste avoir envie d'adhérer à l'Organisation internationale de la francophonie, il y a aussi une évolution importante de la gouvernance de l'Organisation internationale de la francophonie, qui aujourd'hui ne demande pas grand-chose, finalement, aux États qui y adhèrent.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, grand témoin Marie-Béatrice Levaux, et on est en pleine francophonie aujourd'hui. Plein d'événements. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, le 20 mars, le grand public peut aller au château de Villers-Cotterêts, qui est le centre international de la francophonie. Puis aujourd'hui aussi, c'est à Dubaï, dans le cadre de l'exposition universelle au pavillon français. Grande rencontre sur la francophonie. Et puis tout ça prépare le sommet de Djerba qui aura lieu en Tunisie à la rentrée, à l'automne prochain. On en parlera dans un instant, mais avant d'arriver surtout à vos propositions de francophonie citoyenne, deux petites questions. Est-ce que finalement la francophonie n'est pas victime de deux choses, à la fois d'une diplomatie, parce que quand on entend ou on lit les discours de la secrétaire générale actuelle de l'Organisation internationale de la francophonie, on a l'impression que c'est un chef d'État qui parle politique, donc qui oublie un peu la francophonie. Et puis la deuxième question, est-ce qu'elle n'est pas aussi victime de son histoire coloniale? Mais j'ai une question plus précise à vous poser là-dessus. Est-ce qu'elle n'est pas déjà victime de la diplomatie?
L'Organisation internationale de la francophonie, c'est une organisation internationale. Et donc la secrétaire générale a rendu chef d'État. Donc là, c'est, je dirais, dans le monde un peu fermé, peu identifié par le grand public, de ce que peut être l'ONU, de ce que peuvent être ces grandes organisations. C'est déjà, je dirais, un résultat des 50 années de construction de la francophonie, on va dire, institutionnelle, politique. C'est que le premier objet, c'était de construire la paix et de le construire avec un vecteur en commun qui est la langue en commun. Donc ça, je pense que ça reste, il faut pas le négliger et le sous-estimer. En 21e siècle, et on y est déjà bien avancé dans le 21e siècle, la francophonie moderne, contemporaine, elle doit absolument rencontrer son public. Et je pense que ce qui a été oublié par les grandes organisations et les institutions de la francophonie au sens large du terme, c'est de mettre en visibilité la rencontre avec les francophones, avec, je dirais, l'usage de la langue française et finalement avec les citoyens. Les citoyens peuvent être des contributeurs positifs. Or, ils sont à la marge aujourd'hui de la gouvernance de la francophonie dans le monde.
Donc on va y arriver, hein, sur cette vous voulez créer une francophonie citoyenne, on va y arriver dans quelques instants. Mais est-ce que la francophonie n'est pas aussi victime de l'histoire coloniale? Quoi faire pour pallier à cela? Vous dites très bien dans le livre, avec votre complice, c'est d'ailleurs...
Jean-François Beau,
vous dites, voilà, il y a une chasse à la langue française, notamment de la part des islamistes. On chasse la langue française, des francophones, on assassine des francophones, etc., etc. Et cette histoire coloniale, elle pèse très lourd dans la façon aussi de parler de la francophonie.
Je crois que l'histoire coloniale arrange tout le monde. Elle arrange ceux qui n'ont pas envie de s'en occuper. Elle arrange ceux pour qui ça pourrait être un risque que la langue française dans le monde, je dirais, reprenne vigueur, ou que l'espace international francophone ait son mot à dire dans, je dirais, les grands enjeux mondiaux actuels. Et on va pas les repréciser, mais je parle aussi dans le livre des enjeux climat. Et donc finalement, la conscience francophone du 21e siècle, elle est peut-être plus vivace qu'on ne le pense, et donc peut-être plus à abattre qu'on ne le pense. Et donc, entre ceux qui nous disent c'est ringard parce que c'est une histoire du 20e siècle, un vieux relent de colonisation, et qui s'arrête là, et puis la réalité des peuples francophones dans leur pays, qui ne comprennent même plus aujourd'hui cette identité. Et puis aussi l'utilisation politique de la langue française, on le voit du côté des islamistes, c'est la langue à abattre parce qu'elle renvoie à une vision du monde qu'ils récusent, et en particulier évidemment toutes les difficultés que certains francophones ont pu vivre sur certains territoires. Donc il faut le dire aussi, je veux dire, la décolonisation, ça commence à prendre beaucoup de temps. Bientôt les générations actuelles, les jeunes, ne sont pas du tout dans cette position-là. C'est-à-dire que eux, ils l'ont pas vécu. Peut-être ils en ont entendu parler par leurs grands-parents, mais enfin aujourd'hui, un jeune qui veut apprendre la langue française,
la décolonisation qu'on a connue de papa, de grand-papa, oui. Mais il y a de nouvelles formes de colonisation continue. Et la décolonisation, c'est un état d'esprit de lutter contre toutes les nouvelles formes d'hégémonie, de néocolonisation culturelle, économique, etc. C'est aussi une éducation. Donc la décolonisation, c'est décoloniser les esprits. Ce n'est pas que par rapport à l'histoire, c'est aussi dans le quotidien, on l'a vu par rapport aux réfugiés, par rapport à l'immigration, etc. Donc c'est aussi une culture.
Je crois qu'il faut quand même qu'on soit bien clair sur ce sujet. La France n'est pas en train d'imposer la langue française dans le monde. Je dirais, si ça saurait, déjà que nous plaignons d'un déficit francophone en France, on est très très loin d'une position hégémonique de la France sur sa langue. Ce qui se passe, ce sont les pays et les habitants de ces pays qui continuent à apprendre la langue française. Les alliances françaises n'ont jamais été aussi, je dirais, sollicitées que pendant cette période, qui sont en train de questionner c'est pas, on n'est plus du tout dans une histoire, je dirais, hégémonique de la langue. Et on voit bien que les discours politiques sur ce sujet sont clairs. Le multilinguisme reconnaît les langues maternelles, reconnaît les apprentissages des langues dans les différents pays. Et aujourd'hui, la langue française peut-être demain devenir la première, deuxième langue apprise.
Alors, et si la langue française, et vous le racontez très bien dans votre livre, la langue française n'appartient pas à la France. Non. D'ailleurs, vous citez Habib Bourguiba en 1956, qui dit « La langue française n'est pas une langue étrangère ». Et on pourrait aussi citer Jean Amrouche, dans les années 40, qui disait déjà « La langue française n'appartient pas à la France ». Donc, même la déclaration du Front de Libération Nationale en 1954 a été rédigée en français. Donc, et on a des écrivains comme Kateb Yassine en Algérie, Drich Raibi au Maroc, Malek Haddad, etc., qui ont écrit en français et qui ont écrit y compris contre la France, contre l'État colonial. Donc, la langue française est une arme dont il faut se saisir pour des valeurs que vous racontez dans votre livre, de démocratie, de liberté, de tolérance, d'égalité homme-femme, c'est ça ?
La langue française n'appartient pas à la France, mais elle est aussi en France. Et c'est dans mon livre, je dis deux choses. Je parle évidemment des enjeux internationaux et de gérer cette richesse potentielle sur laquelle nous pourrions être beaucoup plus en action, qui est le partage de la langue française qui fait le tour du monde. Mais je questionne beaucoup aussi la langue française en France, comme, je dirais, aussi un lieu de rencontre, de cohésion, de solidarité et d'être ensemble. Et cette question-là, aujourd'hui, elle est extrêmement contemporaine.
Alors, il y a quelque chose de récurrent qui vient dans votre livre et qui vient dans tous vos écrits et dans tous vos discours, c'est que vous dites que la francophonie, le français, est facteur de démocratie, facteur de libération, etc. Est-ce que apprendre le français qui est facteur de libération, ou est-ce que c'est la capacité d'une société à construire sa démocratie, cultiver sa diversité, et au bout du compte avoir accès à toutes les langues, à toutes les cultures, à tous les enseignements, qui est facteur de démocratie? Pourquoi le français serait-il plus porteur de valeurs démocratiques que d'autres langues? Pourquoi la francophonie serait plus porteur de démocratie?
Il faut relire Bamako en 2000, il y a 20 ans. Qui, pour la première fois, met en relation démocratie et francophonie. Donc, ce sont des écrits politiques importants qui, au-delà, je dirais, de l'apprentissage, de l'utilisation de la langue dans le monde, mettent en avant, et l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, a de ses objectifs l'accompagnement de ces valeurs-là, les valeurs de paix, les valeurs d'humanisme, les valeurs de démocratie, etc. Et, soyons clairs, tous les linguistes le disent, la langue porte le sens et la pensée. Et la langue française a cette particularité d'être une langue complexe, mais d'être une langue, je dirais, de...
Toutes les langues portent le sens et la pensée.
Oui,
pourquoi ?
Mais quand on regarde, par exemple, la manière de construire la langue, au niveau linguistique, que ce soit la langue allemande, la langue anglaise, il y a beaucoup plus de finesse dans la pensée en langue française, et on peut exprimer de manière plus large les émotions, les caractéristiques plurielles. Et donc la langue française aujourd'hui est reconnue comme une langue qui apporte, je dirais, une certaine précision. C'est une langue de précision. C'est une langue de précision.
C'est compliqué de hiérarchiser les langues entre elles.
Je ne suis pas en train de hiérarchiser les langues entre elles.
Vous dites le français dans votre livre est une langue de résistance aux hégémonies et soutient une vision pluraliste et multilingue. Oui. Par contre, ça...
Mais c'est exactement ce que je viens de dire.
Oui, mais ça, par contre, c'est pas toutes les langues et toutes les cultures. Langue de résistance aux hégémonies, ça peut être aussi d'autres langues, mais c'est vrai que la langue française soutient une vision pluraliste et multilingue. Et ça, par contre, on l'a pas dans toutes les langues, on l'a pas dans d'autres pays.
Mais ce sont les fondamentaux de la francophonie. Voilà. Donc, je veux dire...
Le multilinguisme est un des trépieds, du discours d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, sur la francophonie.
Et encore une fois, la France n'exige pas que l'on parle en langue française à personne. Je dirais qu'elle a même déjà à se reconcentrer sur son propre territoire. Mais sur le plan mondial, qu'il y ait des apprentissages de la langue française qui résistent, finalement, c'est une langue qui pourrait disparaître au plan mondial. On peut se poser cette question. Est-ce que ce serait grave que la langue, au lieu d'avoir 700 000 locuteurs, on n'en ait plus que 50 000 parce qu'il n'y a plus du tout d'apprentissage de la langue. C'est pas ce qu'on voit en ce moment. Et donc, la langue française aujourd'hui et la manière dont, je dirais, la modernité de la francophonie, elle est là.
C'est une arme nécessaire dans les futurs combats qu'on a à mener.
Nous n'avons pas une vision univoque du monde. Et cette vision multilinguistique, multiculturelle, eh bien, la langue française le porte peut-être plus que d'autres. C'est pas tout à fait le cas de la langue anglaise. Quand on regarde, je dirais, la stratégie anglo-saxonne, au sens large du terme, de l'utilisation de la langue, quand on m'a dit, Madame Levaux, il y aura plus d'anglais en Union européenne, puisque c'est Brexit, mais c'est complètement, je dirais,
En fait, ce qu'on peut dire, Marie-Béatrice Levaux, et après on reprendra dans un instant, c'est que face à une multilatéralité qui vole en éclats, avec, on le voit avec Donald Trump, avec Poutine, etc., ce multilinguisme de la langue française peut enjamber un peu tous ces réflexes des gens qui se recroquevillent sur eux-mêmes de xénophobie, etc. Et ça peut être un facteur, au contraire, de réactiver le multilatéralisme, de réactiver un petit peu la diversité. On se retrouve dans un instant et on parle aussi justement de ce que vous appelez dynamiter les cloisonnements. Vous allez nous dire comment vous allez dynamiter tous ces cloisonnements.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Marie-Béatrice Levaux, chantre de la francophonie. Hein, on est en plein Dubaï aujourd'hui, c'est le 20, à l'exposition universelle et la francophonie est dans tous ses états, hein, dans tous ses éclats et dans tous ses états. Marie-Béatrice Levaux, votre constat est lucide. Tout est bien, disons, décortiqué. Mais je dirais que dans votre livre, vos propositions, votre projet me semble un peu flou. Je vais y revenir dans un instant. Vous dites, par exemple, je veux promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives et réaffirmer le lien entre la francophonie et la démocratie. Mais regardez dans les pays africains, beaucoup sont francophones depuis des décennies, et c'est dictature sur dictature, coup d'État sur coup d'État. Ça veut dire qu'il est où le bug ?
Il est à deux niveaux. Il faut, je dirais, faire une différence entre la francophonie qui a un grand F, comme on dit souvent, c'est-à-dire celle des gouvernements, des politiques et des institutions, et la francophonie avec un petit F, qui est finalement la francophonie du quotidien, des citoyens, des habitants. Et donc je pense que certains pays, effectivement, aujourd'hui, qui se revendiquent francophones ou qui sont adhérents à l'Organisation internationale de la francophonie, en tant que gouvernement, prennent des orientations politiques qui sont en total désaccord avec, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, Bamako 2000 je dirais les engagements qu'aujourd'hui l'OIF porte. Ça, c'est une chose. Ça n'empêche pas qu'il continue à y avoir dans ces pays, certains ayant même la langue française comme langue administrative, de maintenir la langue, parce que déjà elle est dans la culture du pays, et qu'un certain nombre d'habitants et de jeunes continuent à vouloir l'apprendre. Donc il y a cette question entre le grand F et le petit F.
Surtout c'est qu'elle fédère à peu près toutes les tribus et toutes les langues. Des fois, il y a des pays
c'est souvent une langue véhiculaire, c'est une langue qui permet de se comprendre d'une région à une autre. Mais je dirais que la question du 21e siècle, c'est la rencontre entre le grand F et le petit F, si vous me permettez l'expression. Elle est là, le sujet.
Vous voulez donc, pour que ces deux F se rencontrent, le grand et le petit, vous voulez créer une francophonie citoyenne. Alors, vous dites, il faut un forum mondial de la jeunesse, il faut un forum économique, et il faut donc peser sur les grandes décisions, un projet de société. Dans votre livre, c'est un peu flou. Vous parlez d'un forum mondial des citoyens. C'est-à-dire que vous souhaiteriez que les États, les parlements et les sociétés civiles se rencontrent.
Oui.
C'est pas utopique, ça ?
Écoutez, le sommet de la francophonie, vous en avez parlé tout à l'heure, peut-être cette fois-ci aura-t-il bien lieu en 2022, en fin d'année à Djerba. C'est la rencontre des chefs d'État et des gouvernements membres de l'OIF, c'est-à-dire à peu près 88 pays dans le monde. il va quand même falloir les bousculer un peu. Et cette gouvernance politique de l'espace international francophone doit se rendre compte qu'il ne peut plus fonctionner sans, je dirais, une intervention beaucoup plus importante de tout le monde associatif, de toutes les organes non les ONG, les OING, les organisations non gouvernementales, les institutions non gouvernementales qui fleurissent. Il y a énormément aujourd'hui, je parlais des alliances françaises, on peut parler aussi des maisons des francophonies, des maisons internationales des francophonies qui commencent à se déployer un peu partout dans le monde. Regardez, on parlait de l'Ukraine tout à l'heure. Où est actuellement l'ambassadeur de France en Ukraine? Il est à l'intérieur des locaux de l'Alliance française. J'ai tout dit quand j'ai dit ça.
Bien sûr. Alors, donc vous dites forum mondial et vous dites aussi forum économique. Et vous dites une main-d'œuvre francophone qu'on devrait faire monter en première ligne, des chefs d'entreprise francophones qu'il faut aussi réunir. Et vous dites que l'économie, ce forum économique, serait porteur de démocratie contributive. Ça veut dire quoi?
Alors, quand on parle du Davos, tout le monde comprend. Le Davos, c'est une construction anglo-saxonne d'un modèle, je dirais, économique mondialisé. Je n'ai rien contre. La question n'est pas ni contre ou à la place. La question, c'est que s'il y a Davos, il y a eu volonté politique. Et moi, ce que je veux faire, c'est le Davos francophone. Parce que il y a encore, en particulier pour les petites entreprises, pour des territoires, une insuffisance de compréhension qu'on peut faire des affaires en langue française. Parce qu'on a finalement un espace économique international où on peut y avoir des échanges équilibrés, gagnant-gagnant, entre des entreprises qui travaillent sur le territoire français, mais pas que, avec des entreprises qui travaillent sur d'autres territoires dans le monde. Il n'y a pas d'organisation réelle de cela. Il y a bien sûr aujourd'hui, on sent venir et à l'OIF et je dirais dans les grandes institutions patronales comme le MEDEF il n'y a pas très longtemps des volontés, mais c'est encore extrêmement léger par rapport aux enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut accélérer. Et mon idée c'est ça, c'est de faire un Davos en langue française et qu'il y ait la fierté d'y participer, non pas en parlant anglais. Mais on parle en français.
Et Davos, vous dites, ce devrait être le lieu fécond du dialogue et de l'innovation et de l'invention, de l'invention des solutions.
Bien sûr, l'invention des solutions. Je dirais les enjeux numériques aujourd'hui. Est-ce que on voit bien que les enjeux numériques et toute l'organisation numérique du monde, elle est tenue par quelques GAFA en langue anglaise. La Chine a pendant un certain temps fermé ses portes à cette invasion pour eux, de cette nouvelle dimension numérique mondiale, pour créer son propre outil. L'Europe ne l'a pas fait. Elle essaie de rattraper aujourd'hui des situations. Je parle aussi de la recherche aujourd'hui pour pouvoir exister au plus haut niveau de la recherche scientifique. Il faut publier en anglais. Si vous ne publiez pas...
Est-ce que vous revendiquez une exception culturelle francophone, une souveraineté francophone? Est-ce que vous le revendiquez?
C'est pas des mots comme ça que j'utiliserais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une énergie francophone dans le monde. Ça, j'en suis convaincue, pour quand même l'avoir rencontré pas beaucoup. Il y a un déficit de compréhension francophone en France. Donc, il faut rééquilibrer cette histoire. Et c'est pour ça que on est mois de mars, on est le 20 mars, mais on est aussi dans la pleine campagne présidentielle et législative à venir. Donc, soit on pose la question de la France a-t-elle encore un projet pour la francophonie? Est-ce que la France peut encore s'enthousiasmer pour un projet francophone contemporain, engagé et populaire? C'est ça.
Vous mettez en ligne de mire l'horizon 2024. Pourquoi 2024?
Parce que 2024, on le sait tous, on a les JO. Paris 2024. Et je pense que ça a été très symbolique, cette écriture en anglais sur la Tour Eiffel, lorsque Paris a obtenu les JO. Moi, ça a été pour moi un déclic, et ça n'a pas été que pour moi. Ça l'a été pour beaucoup de Français qui d'un seul coup se sont réveillés en disant comment. Ça l'a été pour la presse, qui s'est quand même un petit peu indignée en disant « Mais pourquoi est-ce qu'il faut écrire en anglais notre satisfaction d'avoir obtenu les Jeux Olympiques ?» Ça, c'est la... Et donc, ça a été retransformé. Mais c'était symptomatique. Paris n'est pas une ville internationale. Et Paris, aujourd'hui, est perçue par les francophones du monde comme un peu leur ville. Et quand j'avais discuté avec pas mal, je dirais, de représentants au CIO en Afrique, ils me disaient, si Paris obtient les Jeux, eh bien, ce seront les Jeux de la francophonie, au sens les Jeux en langue française qui nous rassemblent. Et il me semble aujourd'hui qu'on a dit beaucoup de choses sur Paris 2024 en termes d'ambition tout à fait légitime et intéressante, mais on n'a peut-être pas dit grand-chose sur le Paris 2024 en langue française.
Alors, dans votre énergie, dans votre combat, vous avez, pour lier vos paroles et vos actes, vous avez créé quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes un peu le résultat de toutes ces années de combat pour une francophonie citoyenne. Vous avez créé ce qu'on appelle les jeunes ambassadeurs francophones. Et dites-nous quelques mots, c'est quoi, comment, ça va où, qu'est-ce que vous allez en faire?
Alors, effectivement, à un moment, il faut pouvoir aussi porter des solutions. Et comme mon objectif, c'est de faire se rencontrer le petit F et le grand F, l'idée des jeunes ambassadeurs francophones, elle a d'abord été questionnée. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui les nouvelles générations sont intéressées? Eh bien, beaucoup plus qu'on ne le pense, et beaucoup plus que, on va dire, les médias, les gouvernements, les politiques en parlent. Les maires n'en parlent jamais. On est le 20 mars. On peut compter le nombre de mairies qui vont avoir le drapeau francophone, à leur fronton. Donc c'est quand même un sujet en France. Donc les jeunes ambassadeurs francophones, c'est une volonté de dire, quel que soit l'endroit où nous sommes, jeunes de 16 à 30 ans, puisque c'est à peu près l'âge de cette mission, eh bien, on peut s'investir pour un an et être là où on habite, là où on vit, là où on étudie, là où on s'investit dans une association, etc. Être au milieu de tout ça aussi un jeune ambassadeur francophone et justement expliquer cette histoire et donner du sens à ce mot qui finalement est un mot hors sol en France.
J'imagine qu'ils seront à l'honneur à Dubaï, qu'ils seront à l'honneur à Dubaï aujourd'hui, nous sommes le 20 mars, vous êtes à Dubaï, qui seront à l'honneur dans le cadre du pavillon français.
Alors, il faut savoir que les jeunes ambassadeurs francophones, on a terminé une année de travail ensemble, une trentaine qui se sont mobilisés pour faire la charte du jeune ambassadeur francophone qui est terminée, pour faire un logo, pour faire quelque chose d'identitaire à partager ensemble. Et on remet nos travaux aujourd'hui, 20 mars. Et donc, une année de jeune ambassadeur, ça démarre le 20 mars de l'année et ça se termine le 20 mars de l'année suivante. C'est donc symboliquement, entre guillemets, notre année calendaire. Donc aujourd'hui, nous sommes en phase de déploiement et nous avons la chance que l'Assemblée parlementaire francophone, l'APF, qui regroupe aussi tous les parlements des pays qui ont des parlements en francophonie, se mobilise et reprenne, ce programme pour le déployer sur 3 territoires, en France, en Europe, parce que c'est évidemment la présidence française, c'est un moment où on peut avancer un peu plus sur les jeunes ambassadeurs francophones en Europe, et bien sûr dans le monde, puisque nous avons des jeunes ambassadeurs qui sont déjà présents au Liban, qui sont présents à l'île de la Réunion, qui sont présents au Cameroun. Donc on voit bien que dans les 30 qui ont voulu accepter de travailler pendant un an à ce programme, eh bien aujourd'hui nous sommes prêts à le déployer.
Marie-Béatrice Levaux, on a bien compris que votre combat pour la francophonie, pour la jeunesse, pour la société civile, c'était un chantier du même type que les combats pour l'écologie, pour l'environnement, pour la paix. On a bien compris que c'était un des combats modernes. Et j'imagine que ça, vous allez le porter haut et fort et loin jusqu'à Djerba à l'automne prochain. Et j'espère qu'on vous recevra avant Djerba, avant le sommet de Djerba, pour se faire un peu le point, le bilan de ce qui s'est passé. Peut-être décoller pour Djerba. Merci d'être venu dans les grands témoins et à très bientôt.
Merci infiniment, Nasser.
Merci.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.